Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Les microservices sont-ils partout? Est-ce que cela a finalement révolutionné notre manière de concevoir des applications? Mais attends, c'est quoi un microservice? Tu l'auras compris, aujourd'hui on va se demander si c'est vraiment si simple un microservice.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bonjour à toi, cher compagnon, et bienvenue dans ce 21e numéro de Radio DevOps. Et pour moi, pour parler de microservices, excusez-moi, il est tard, je sais plus ce que je dis. Pourtant, je n'ai pas bu. Aujourd'hui, j'ai Damir. Bonsoir, Damir.
Bonsoir ou bonjour.
J'ai aussi Mathieu. Bonsoir, Mathieu.
Bonsoir.
Et enfin, et non des moindres, René. Bonsoir, René.
C'est gentil. Bonsoir à tous.
Bah, tu es un peu notre papa à tous, René.
Bah, je sais pas comment je dois le prendre.
Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. L'épisode commence bien.
Il commence super bien. Mais avant qu'on commence vraiment, permettez-moi de rappeler à notre auditeur qu'il peut s'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube s'il a envie de voir nos belles bouilles et de voir si René est vraiment notre papa à tous ou pas. Et surtout, il peut être notifié s'il active la cloche sur YouTube. Bon. On va vraiment commencer sur les microservices. On va arrêter de dire n'importe quoi, même si c'est intéressant de dire n'importe quoi. Enfin, intéressant, je sais pas, mais agréable. Et on va définir les microservices. Enfin, Damir va commencer, puis on va itérer après sur sa définition à la méthode DevOps. Allez, Damir, je te laisse la parole.
Alors, je vais essayer de définir cette notion assez complexe. Je vais passer par l'historique parce que, tel un père castor, j'aime bien raconter une petite histoire. Donc du coup, faut voir que pendant longtemps, globalement, ce qui se passait dans l'informatique, c'est que quand on avait une application, on faisait une grosse application qui faisait un peu tout. Par exemple, si vous prenez un site e-commerce, bah, votre application a géré les achats, a géré les commandes, a géré le stock, a géré l'espace client, a géré tout ça. En fait, faisait ça dans un langage quelconque, du PHP ou autre. Là, c'est pas le propos spécialement. Et vous avez cette application-là qui était un gros bloc. Donc c'était super cool parce que c'était pas très complexe en fait comparé. C'était pas très complexe, tout était à un même endroit en fait pour s'y retrouver. Par contre, ça avait des problématiques et on y reviendra un peu après. Et pour répondre à ces différentes problématiques sur lesquelles on va s'étendre un peu plus tard, on s'est dit que ça pouvait être intéressant en fait de découper cette application. Donc comment la découper? C'est par exemple pour la découper de se dire mon site web effectivement qui était un site de marketplace avec son espace client etc. Je vais découper ça en fonctionnalités. Par exemple, avant, mon monolithe gérait tout. Ici, je vais faire des services pour chaque chose, d'où le terme microservice. En réalité, c'est des services à part entière, ils sont pas réellement micro, mais ils ont un périmètre bien défini. Et par exemple, j'ai un service qui va permettre de juste gérer les stocks, qui va être un service stock que je vais pouvoir interroger et avoir des résultats de stock, savoir combien il y a de stocks disponibles, etc. Je vais avoir un service qui va être le service, par exemple, de commande, qui va me permettre de renvoyer vers des services de paiement, etc. Donc, je vais découper tout ça en petits morceaux, en petits services, et ça va avoir pas mal d'avantages, mais aussi des inconvénients, et ça, je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais globalement, le microservice, ça va être ça. Ça va être plutôt que penser ça en un bloc, on va découper ça en fonctionnalités ou en d'autres choses, il y a d'autres manières de découper. Mais on va en tout cas découper en fait notre programme pour en faire des plus petits programmes, pas forcément des petits programmes. Vous avez des services de microservices qui peuvent être un peu plus gros, mais vous allez les découper en fait pour les rendre un peu plus indépendants. Et après, on rentrera dans le détail, je pense, pour tout ce qui est de pourquoi on fait ça, quel problème ça, etc. Parce que sinon, je vais déborder et je vais faire tout le podcast moi-même et ça va être un monologue et vous allez vous emmerder. Et les auditeurs aussi. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter.
Je pense que tu as tout dit. Je pense que c'est vraiment ça, les microservices. C'est plein de services avec des responsabilités bien claires, faiblement couplées. Voilà, après, chacun aura sa définition sur à partir de combien de services dans une architecture on fait du microservice ou autre. On pourra en reparler. Et on en reparlera d'ailleurs. Mais l'idée est là, du moins.
René, tu n'as pas grand-chose à dire comme moi, hein.
Non, je vais m'abstenir.
Bon, ben alors on va pouvoir entrer dans le dur du dur. Alors, c'est quoi les problèmes finalement qui sont résolus par les microservices et pourquoi on en est venu à faire des microservices? Est-ce que l'un de vous veut commencer?
Je peux prendre, la parole.
Vas-y.
Parce que pour moi, c'était inventé pour ça et je pense que c'est toujours le SCSE majoritaire. C'est inventé dans les grands groupes tech pour des problématiques organisationnelles. Parce qu'on a des entreprises avec des centaines ou des milliers même de développeurs maintenant, et on veut faire travailler ces développeurs dans des petites équipes, donc ce qu'on appelle souvent des pizza teams, qu'on peut nourrir avec une pizza finalement, et une équipe qu'on peut nourrir du moins avec une pizza. Et donc les microservices étaient là pour répondre à un problème organisationnel. Comment je fais travailler tous ces gens ensemble sur un même produit, mais dans des petites équipes. Et donc le but, ça a été de découper le produit. Quand je dis le produit, ça peut être une marketplace par exemple ou autre, en plusieurs services, et attribuer ces services finalement à des équipes qui vont travailler en isolation et parler avec les microservices du voisin, avec un système de contrat finalement, c'est ça. On définit des contrats avec le voisin, avec les services du voisin, et c'est comme ça qu'on fait communiquer les services. Donc pour moi, c'est vraiment ça le premier point, c'est régler un problème organisationnel quand on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de développeurs et d'équipes.
Je précise quand même la pizza team, parce qu'on pourrait se dire avec nos pizzas européennes, mais comment tu nourris une équipe avec ça? C'est les pizzas américaines dont on parle, hein. Vous savez, les trucs énormes qui peuvent nourrir 6 à 8 personnes. C'est ça, les pizza team. Parce que, bon, bref. moi, j'y vois un truc, justement pour aller dans ce sens-là, c'est finalement, quand on a ces grandes boîtes avec plein de développeurs, il y a des services avec des responsabilités différentes, tu l'as un peu dit, mais finalement, elles ont des vitesses de développement et de scalabilité différentes. Elles travaillent sur des fonctionnalités qui ont peut-être besoin de scaler plus rapidement et d'autres plus faiblement. Et donc, passer sur des microservices, ou en tout cas séparer les bases de code, on y reviendra, mais séparer en fait les fonctionnalités, ça peut être intéressant dans ce sens-là, parce qu'au niveau de l'infrastructure dont on parlera tout à l'heure, et au niveau de la manière de développer, ça peut changer les choses.
Pour rebondir sur le scaling, en fait, si on reprend l'exemple un peu que je disais tout à l'heure, souvent le microservice va pouvoir en fait changer la manière de scale et parfois la simplifier. Tout simplement que si on reprend dans l'exemple du début que j'ai donné, vous rappelez avec la jolie application e-commerce, vous allez avoir en fait dans la première version globalement une base de données, une application qui va tout gérer. Donc si demain vous avez un pic de commande, vous êtes obligé de scaler toute votre application. Si vous arrivez à scaler un monolithe, c'est rarement le cas. Et votre base de données va se prendre beaucoup d'interrogations vu qu'elle gère aussi les stocks et tout ça. Le microservice va pouvoir vous permettre de déconnecter un peu tout ça et de regrouper par fonctionnalité. Et par exemple, on pourrait imaginer que la base de données, l'API, quand je dis l'API, c'est le service qui va gérer en fait par exemple les commandes et le stock, prenons le stock, c'est plus logique, lui va être dans un service à part qui va avoir sa propre base de données. Donc on va pouvoir, s'il y a beaucoup d'interrogations sur le stock, juste scaler cette partie. Donc on va pouvoir vraiment cibler les parties qu'on scale et pour le coup avoir moins de choses un peu bloquantes. On sait qu'une base de données à un certain niveau, c'est très dur de scale et vous commencez à avoir des problématiques qui sont un peu embêtantes à gérer, même si en réalité on peut scale quand même relativement haut avec.
Il y a aussi peut-être quelque chose, je ne sais pas si on l'a abordé, mais c'est des fois aussi des problématiques de cycle de vie sur l'application. Des fois, ça peut simplifier la gestion de parties qui vont plus ou moins vite dans la manière de développer, etc. Donc, c'est au-delà parfois des équipes, il y a aussi des parties qui peuvent bouger plus vite et donc ça peut simplifier ces aspects-là.
Eh bien, puisqu'on est dans la simplification, il arrive un moment où parfois, même si on travaille sur une seule et grosse application, l'application elle devient tellement énorme que finalement on n'a pas d'autre choix que de la découper, parce que sinon à la maintenir avec même une pizza team, ça devient compliqué. Et souvent quand c'est des très très grosses applications, c'est pas des pizza team. Donc quand notre application commence à devenir trop grosse et surtout trop complexe, on peut commencer à réfléchir et à avoir besoin de microservices ou de services.
Ouais, il y a un autre aspect intéressant, c'est des microservices. Souvent, c'est aussi pour la résilience. Ça permet d'avoir, de séparer et de faire, par exemple, certaines parties qui sont plus critiques. versus d'autres, et aussi de mettre en place justement des systèmes de fusibles, c'est-à-dire s'il y a par exemple un exemple assez qui est assez souvent pris, c'est chez Netflix, il y a on va dire trois grosses parties, il y a la partie streaming, le catalogue et puis les commentaires, et ça permet par exemple s'il y a un défaut sur la... C'est un exemple hein, un peu simpliste, mais s'il y a un défaut sur la partie de commentaires, ça n'impacte pas tout le reste. Donc ça permet de mieux séparer les choses et avoir une meilleure résilience. Et l'application peut continuer de fonctionner même si une partie est défectueuse. Donc ça c'est un des bénéfices des microservices.
Et pour le coup, on peut effectivement, on va dire, avoir plus de... être moins impacté par un service qui plante que si notre monolithe il plante, là on a tout. Je reviens à mon exemple, hein. Si jamais vous avez tout votre programme, votre site e-commerce qui plante, si c'est le monolithe, tout votre site est indisponible. Si jamais c'est du microservice, vous avez un des services qui va planter, potentiellement les gens sont juste bloqués au niveau de la commande ou autre, ce qui est emmerdant aussi, mais qui est quand même un peu moins grave au niveau impact. Et du coup, il y a un autre point aussi, c'est que dans une grande équipe, sur un programme un peu complexe, vous avez des fois des besoins différents qui vont nécessiter des langages spécifiques ou des technos spécifiques ou même voilà des compétences, par exemple, pour l'authentification, des choses comme ça. Donc, on va pouvoir séparer ça en fait sur des services à part avec des équipes dédiées qui auront une meilleure spécialisation là-dedans et qui pourront utiliser des langages différents, on va dire, et ils ne seront pas obligés de se mettre tous d'accord sur un langage. Même si on en reparlera, il y a un peu des limites aussi.
Ça peut aussi limiter un peu les coûts parfois parce qu'on peut aussi moduler un petit peu l'infrastructure sur des parties qui sont plus critiques. Ben là, on peut mettre le paquet, redondance, 3AZ, etc. Bon, on passe des meilleurs. Et puis sur des parties qui sont peut-être un peu moins critiques sur l'application, avoir une infrastructure un peu plus légère et peut-être un peu moins fiable, mais sur des parties qui sont moins vitales.
Justement, on reviendra un petit peu sur l'infrastructure tout à l'heure, sur la mise en œuvre des microservices et... du coup, est-ce que c'est pour tout le monde un microservice, enfin une application en microservice? Pour qui c'est et pour qui ça n'est pas? Qui veut se lancer dans ce beau débat?
Alors, je peux commencer. Pour moi, c'est des entreprises d'une certaine taille, comme je le disais au début, avec beaucoup d'équipes et avec une grande maturité technique, parce qu'on en reparlera, mais les microservices, ça amène beaucoup de problématiques également. Moi, je comprends pas quand je vois des fois des startups avec deux devs. Ouais, on est en microservice. Ah, ok. Bon, j'ai du mal à comprendre. Donc, pour moi, il y a quand même, il y a vraiment une notion du nombre de développeurs sur le projet et de la maturité technique pour résoudre les problématiques dont on va parler.
Pour le coup, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai quelque chose que je vois, on voit trop souvent. Quand vous êtes une startup, votre but, c'est de faire un MVP. Vous en foutez que le truc soit scalable à 1 milliard d'utilisateurs parce que vous les avez pas actuellement. Et si vous mettez 6 ans à construire votre truc, vous aurez cramé tout votre budget, vous les aurez pas, vos utilisateurs, de toute façon. Donc, faites un MVP, faites un monolithe bien sale, c'est pas grave. L'idée, c'est juste d'avoir des clients. Et quand vous aurez les moyens, quand vous allez scale, c'est là que vous allez pouvoir vous poser des questions. Mais au début, c'est pas votre but. Votre but, c'est pas de faire du microservice ou un truc qui va scale à l'infini. Faut arrêter avec cette connerie. Moi, je suis désolé du coup de gueule, mais je le vois beaucoup. Si je peux prendre un exemple, c'est comme demain. Vous voulez fabriquer des voitures. Une voiture, avant, vous faites un premier modèle de test. Quand vous voulez construire une voiture de test, vous allez la faire chez vous dans un atelier avec un ingé qui va la fabriquer manuellement, artisanalement. Vous allez tester. Si ça fonctionne, vous allez construire des usines pour la fabriquer. Vous faites pas l'inverse. Vous n'allez pas perdre. Vous imaginez, une marque perdait le temps à construire une usine dédiée pour sa nouvelle voiture. Elle va passer 3 ans à construire l'usine. Elle va sortir la nouvelle voiture et elle se rend compte c'est super. Elle peut en construire 100 par semaine. Par contre, elle se rend compte que ça correspond à rien et que sa voiture elle pourra pas être produite à grand nombre parce que elle se vendra pas et elle doit tout recommencer. En fait, c'est exactement le même cas. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, commencez avec un monolithe, évoluez. Après, vous poserez la question. Effectivement, comme Mathieu l'a dit, il faut quand même avoir une certaine taille pour qu'il y ait une vraie utilité sur le microservice et une vraie plus-value. Et surtout, pas le faire un peu à l'arrache pour se dire juste on a fait du microservice.
Je confirme ce que tu dis et j'ai le parfait exemple, puis c'est ce qu'on fait. Nous, pour Frogit, on a décidé de ne pas faire de microservice parce que GitLab peut être hébergé en microservice. On a décidé d'utiliser le gros monolithe sur un gros serveur qui n'est pas redondé et qui n'est pas haute dispo. Par contre, notre MVP, c'est on ne veut pas perdre les données des clients. Donc, on fait tout pour pouvoir, quoi qu'il arrive, s'il y a un problème, pouvoir remonter toute l'infrastructure rapidement sans perdre les données. Donc, on se focalise sur ne pas perdre les données, mais pas la haute dispo. Donc, pas de microservice. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on est en bêta, ça fait 1 an. Parce qu'on est une toute petite équipe, comme tu le disais. Donc, ça sert à rien d'aller et de vouloir le top du top, alors qu'en fait, on n'a pas de clients. Moi, je pensais à un truc. Il y a des grosses sociétés, par exemple, qui peuvent avoir envie de mutualiser des services entre applications. Des sociétés qui ont plusieurs applications, mais qui ont des services communs à toutes ces applications, plutôt que de dupliquer ce service-là dans toutes les apps, elles pourraient utiliser des microservices et mutualiser ces services-là au niveau des apps. Je ne sais pas si ça se fait. Je pense que oui. Est-ce que vous avez des exemples de ce type-là ?
Bah, les services d'authentification, généralement, je dirais, qui sont partagés au sein d'une même plateforme, par exemple.
Moi, je pensais aux services mail aussi, qui pouvaient être partagés entre toutes les apps, par exemple.
Oui, ou tout simplement, bah, si on prend l'exemple de Google, qui a quand même beaucoup de services et sûrement beaucoup de microservices derrière, hein, qui doivent être plutôt des big microservices, pour le coup, eux, bah, le service de paiement, on s'imagine bien qu'ils ne vont pas le recoder à chaque fois. C'est le même service qu'ils appellent à chaque fois sur les différentes plateformes sur lesquelles vous faites des paiements. Après, du coup, bah, on parle de, bon, on dit c'est pour qui. Mais il ne faut pas oublier que bah, ça peut aussi engendrer, je pense, des problèmes, en fait, les archis microservices, pour le coup. C'est, si on l'utilise, bah, comme on disait, pour des entreprises qui sont trop petites, ça peut être beaucoup trop cher, en fait, en termes humains et en termes financiers, pour être efficace, en fait. Par exemple, il y a aussi d'autres raisons. Je ne sais pas si vous en voyez d'autres, d'autres problèmes qui peuvent se créer, en fait, en faisant le mauvais choix.
Alors moi j'ai un bon exemple. Tu veux y aller, Christophe? Ok, merci. Moi, non, mais très rapidement, j'ai travaillé sur un projet avec 60, quand même 60 personnes, et pour le coup c'était pas une petite entreprise, hein, c'est une très grosse entreprise française que tout le monde connaît. C'était sur un projet microservice, j'ai vite quitté le navire, ça a été un échec complet, parce que les gens voulaient faire du microservice pour faire du microservice, découper pour découper, il n'y avait aucune raison technique derrière, et c'était n'importe quoi, je veux dire, il y avait des gros problèmes de gestion de données, c'était un énorme système distribué, c'était un monolithe distribué, comme on dit souvent, ça n'avait aucun sens, mais bon, c'est des grands groupes, hein, ils ont de l'argent à cramer, les SS2I du coin sont contentes, voilà, ça permet de placer 50 personnes, mais au final, le projet a été un échec complet, et c'est une appli qui aurait très très bien fonctionné en monolithe très 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 bien, donc c'est pas une solution magique, c'est vraiment le monolithe, ou même avoir quelques services, on en reparlera à la fin, c'est très bien, on n'est pas obligé d'en avoir 50, de découper pour découper, il faut bien réfléchir à sa donnée, enfin bref, il y a plein de problèmes qu'apportent les microservices pour moi.
Bah, encore une fois, tout le monde n'est pas Amazon, parce que Amazon a la réputation d'avoir 150 microservices, si je ne dis pas de bêtises, sur son application. Voilà, effectivement, éviter de se comparer à ces géants-là, parce que il y a plein d'entreprises qui peuvent s'en sortir sans ça. Pas à cette échelle-là, en tout cas.
C'est un peu ce que j'appelle l'effet conférence, quand on voit des conférences de gens chez Google ou chez Red Hat ou whatever, moins Red Hat, mais plus chez Google, chez Microsoft, qui vous expliquent leurs problématiques, c'est super intéressant. Mais après, il faut arriver à rentrer dans la réalité, de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre en place un truc hyper complexe, ça, est-ce que j'ai moyen, est-ce que j'ai la force technique de le faire? Faut oublier que ces entreprises-là sont pas comparables, en fait. Elles sont sur des marchés très spécifiques et ont une organisation et une manière de faire qui est très différente, quoi.
Mais surtout, au final, désolé. Je vais finir. Au final, on était, nous, dans mon exemple, on était 40 devs, et en fait, on était, et donc, et 20 fonctionnels, on va dire, mais en fait, on était 40 devs parce que c'était une archi microservice. On serait dans le monolithe classique, on aurait été 5 devs, ça aurait été suffisant. C'est-à-dire que c'est le microservice qui tirait le besoin. Au bout d'un moment, c'est l'archi qui amenait, qui devenait tellement complexe qu'il fallait embaucher des gens pour la maintenir et tout. Enfin, bref, ça avait plus de sens, ça avait plus aucun sens. Et c'est vraiment ça qu'il faut dire, avoir en tête, c'est qu'en fait, faut pas que ce soit en gros l'architecture qui fasse venir les gens parce qu'on a des problèmes avec et donc on rajoute des gens, etc. Enfin bref, faut que ça soit l'inverse, faut que ça soit raisonné ce qu'on fait toujours dans une entreprise.
Ouais, alors là de manière globale, là dans ton exemple, clairement il y avait pour moi il y a un défaut stratégique et entrepreneurial. La personne qui a la vision stratégique ou la vision entrepreneuriale, elle aurait dû dire mais attendez, on peut pas faire ça, on peut pas embaucher 40 devs pour un tel truc. Bon, bref. Mais de manière générale, c'est le besoin qui doit guider l'implémentation technique et pas le contraire, en effet. C'est pas parce qu'on veut faire du microservice qu'on fait du microservice. C'est parce qu'on a besoin d'en faire qu'on en fait. C'est parce qu'on a besoin d'aller vers les conteneurs qu'on va vers les conteneurs.
Après, je pense que par contre, bah pour avoir un truc peut-être un peu plus positif, parce que là on a un peu critiqué, c'est, je pense, très valable quand on a une application qui a beaucoup de variabilité. Parce que là, effectivement, ça s'y prête bien. Donc beaucoup de variabilité, ça veut dire quand même peut-être beaucoup de clients. Mais voilà, ça, c'est souvent des applications qui vont, ce qu'on a dit, hein, ça aide à scaler, entre guillemets, à mettre à l'échelle. Et du coup, là, dans ces cas-là, une forte variabilité, on va pouvoir démarrer plus facilement les microservices pour améliorer la performance. On va avoir peut-être une granularité plus fine. Bref, ça va aider dans ce type de cas. Donc, voilà, s'il y a 10 utilisateurs, c'est peut-être pas la peine. Après, maintenant, quand on est un site marchand qui a pignon sur rue, là, ça peut faire du sens, clairement.
Mais Doctolib est un monolithe. Si, pour faire.
Exactement.
Voilà. Donc, faut. Ça scale aussi, les
Bah,
monolithes, si bien fait.
c'est bien fait, ça peut scaler loin, surtout avec les performances des machines aujourd'hui, mais ouais, je suis d'accord.
Oui, en fait, il ne faut pas oublier que le microservice, comme on disait au début, il est là pour répondre à certains problèmes. Et si vous n'avez pas ce genre de problème, a priori, vous n'avez pas vraiment de raison d'y aller. Surtout si vous êtes une petite équipe. Là, je confirme, si vous êtes une petite équipe, ne faites pas de microservice, ça ne sert à rien. Vous allez en effet augmenter la taille de vos équipes de dev pour rien.
Ah, franchement, avoir une équipe de 15 ops pour un WordPress qui est sur un Kubernetes, ça me paraît pas déconnant. Hein.
Mais en plus, c'est exactement
Je
ça le
rigole.
pire. Mais parfois, c'est presque ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment. Moi, j'ai des exemples comme ça, clairement.
Oui,
Ah
alors
oui,
qu'on
bon.
pourrait faire un site statique hébergé sur S3, par exemple. Enfin, bon, bref. Donc, il y a un autre truc dans notre petite note, c'est le microservice plus message bus. C'était un peu cryptique pour moi. Quelqu'un veut
Ah,
m'expliquer?
c'est moi qui l'ai mis. Bah, tu peux y aller d'ailleurs, je te laisse répondre.
Ouais, je vais essayer d'expliquer. Globalement, en fait, il y a une architecture microservice qui est pas mal utilisée, qui était pas mal en vogue il y a quelques années, et qui l'est encore. C'est de se baser sur du message bus. En fait, globalement, qu'est-ce qu'on va se dire? C'est que plutôt que mon API, par exemple, la personne, elle a fait un achat, elle doit aller prévenir, du coup, sur mon site marchand, que dans le stock, il y a moins un. Le service va peut-être mettre de temps à scale ou on va pas pouvoir le scale, etc. On va passer, en fait, plutôt faire un appel HTTP sur une API REST. On va passer par un message bus dans lequel on va dire un message, on va dire nouvelle commande et ensuite elle va venir consommer, en fait, ces messages, l'API, plutôt qu'être appelée directement. Ça permet de réduire la latence. Ça permet aussi de scaler d'une manière différente. C'est tout simplement que vous allez pouvoir avoir autant de workers que vous voulez derrière le message bus qui vont venir consommer vos messages. Donc, ça a ces avantages-là, souvent, qui sont, plus de flexibilité de faire de l'asynchrone, donc du coup vous avez moins de latence au niveau de ce qui arrive en bout vu que c'est traité de manière asynchrone. Et pour le coup ça peut être plus simple de scaler dans certains cas, mais ça rajoute un peu plus de complexité. C'est surtout une autre manière de concevoir les choses. Et ça c'est j'ai rarement vu la maturité complète là-dessus. Et souvent c'était un peu plus en rentrer au forceps dans des use cases où on aurait pu faire une méthode bien plus classique. Je sais pas si c'est ça que t'entendais par ce message-là, Mathieu.
C'est ça, ton exemple est bon et je l'étendrai parce que finalement j'ai ma commande qui est exécutée. J'ai mon microservice de stock qui consomme et va décrémenter le stock, mais j'ai aussi mon microservice d'email qui va faire un email au client pour dire on a bien reçu votre commande et votre microservice au contact avec le fournisseur, par exemple, envoyer un message sur le SI du fournisseur pour lui dire bah voilà, prépare la commande. Bref, ça permet à un seul message peut être consommé par plusieurs services également, ce qui serait compliqué à faire en synchrone, bien sûr. Et de toute façon, il faut que les services communiquent d'une manière ou d'une autre. Le message bus, c'est une solution. Le synchrone avec des appels HTTP, c'en est une autre, mais qui a aussi ses problématiques. Donc, il y a toujours une problématique quelque part. Hein. Il y a toujours des avantages et des inconvénients avec les techniques. On en reparlera un peu après, parce que je vois qu'on a une section dans notre note sur le sujet. Mais voilà, c'est ça l'idée, c'est que tout ça, après, il y a de la théorie, des systèmes distribués, donc comment ça fail. Enfin, quand ça plante, il va y avoir des problèmes. Si je perds un message, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, c'est-à-dire que je fais pas d'email à mon customer, sa commande est perdue ou pas, j'ai des mécanismes de reprise ou pas. Si ça plante en plein milieu, c'est consommé par un service mais par un autre, qu'est-ce que je fais? Pareil sur du synchrone. Enfin bref, il y a plein de problématiques, ça rajoute du réseau, ça rajoute de la latence. Enfin bref, c'est après, ça peut vite devenir infernal.
C'est comme Kubernetes. Dans la théorie, c'est magique. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a quand même deux, trois problématiques qu'il faut résoudre avant. Mais effectivement, ouais, comme tu le disais, il y a plein de fonctionnalités. En fait, on peut étendre. Il y a eu plein de théories aussi là-dessus. Il y a eu beaucoup de théories, j'ai l'impression, une théorie crafting, entre guillemets, sur qu'est-ce qu'on peut faire avec des architectures un peu, des fois, tirées par les cheveux, on va se dire. Des fois, on sent que, dans les exemples, en tout cas, que j'ai vu sur Internet, ils avaient plus cherché à faire un use case qui fitait avec ce modèle-là que réellement prendre un use case quotidien et se dire, tiens, ça va pile poil au bon endroit.
Ouais, enfin, je vais faire parler mon âge et mon expérience. Moi, je suis développeur à l'origine et j'ai travaillé chez le leader français et qui doit être européen maintenant de logiciels de préparation de stock et de gestion de commandes d'entrepôt. Et ce côté microservices, message bus, etc., c'était déjà implémenté à l'époque. Pas sous forme de microservices, mais sous forme de démons qui tournaient sur un serveur Unix. Hein. Enfin, je veux dire, il y avait un démon qui faisait une seule chose. Et on n'avait pas de message bus, on avait une base de données Oracle, et il y avait des tables de demande, et il y avait les démons qui inscrivaient leurs demandes sur ces fameuses tables, et puis d'autres démons qui venaient décrémenter. Donc, c'est pas si récent que ça, hein, ces choses-là. Là, enfin, je veux dire, la théorie, elle existe depuis longtemps.
La théorie, oui. Après, là, c'est très différent parce que tu as beaucoup de choses qui sont attachées à ça. En fait, il faut vraiment voir que l'idée est de centrer tout autour de ces nouvelles solutions. Et par exemple, pour la table de données, ben, ça te demande de faire du bricolage derrière. Il faut que tu prévois ta table. C'est à toi de bricoler. Quand je dis bricoler, c'est à toi de concevoir un système où, comme tu dis, tu as une table pour préparer les commandes, tu as des statuts des commandes pour savoir où elle en est, etc. Tandis que dans un message bus, l'idée, c'est que tu as un serveur, du coup, par exemple, un RabbitMQ ou autre, qui va avoir les messages. Et derrière, ils vont juste venir consommer ces messages et tu vas avoir plein de mécanismes qui découlent de là, comme disait Mathieu. T'as des mécanismes où on peut consommer les messages plusieurs fois, t'as des mécanismes où tu vas pouvoir scale en fonction du nombre de messages dans la queue, des choses que tu aurais dû implémenter en fait toi-même dans une base de données, donc c'est sûr c'est possible, mais après ça aurait pris plus de temps et ça aurait aussi engendré de la latence, c'est-à-dire une base de données, on sait tous qu'une base de données relationnelle c'est pas tout ce qu'il y a de plus fun à gérer et c'est surtout quelque chose qui entraîne des problèmes de scaling assez rapidement aussi, donc là c'est une solution différente, après c'est comme tout, on n'a jamais réinventé totalement la roue, hein. Depuis le début, il y a eu des monolithes qui s'appellent à d'autres monolithes, sauf que là, on découpe un peu plus, mais il y a toujours eu un minimum de découpe de fait entre certaines choses. Faut pas penser qu'on invente en permanence non plus tout de zéro, quoi.
Très rapidement, la donnée, c'est très important, et c'est vrai que dans la théorie du microservice, chaque microservice a sa base de données, indépendante. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup comme pattern. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, parce que forcément, il n'y a pas de transaction entre, parce que voilà, c'est entre plusieurs bases de données. Donc, c'est la galère. Par exemple, on parlait des commandes et tout, mais si je supprime mon compte utilisateur et si je veux aussi supprimer ces commandes, ces machins et tout, bah, faut pas que je perde des messages parce que sinon, je vais avoir des data, invalides. Voilà. Et on peut avoir très vite des pertes de consistance entre bases de données. C'est vrai qu'à l'époque, enfin, même maintenant, aujourd'hui, avec un monolithe ou une base centralisée, on a des transactions et des locks et c'est aussi très bien parfois.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Et donc, comment est-ce qu'on met en œuvre tout ça? Comment est-ce qu'on va les implémenter? Alors, c'est là où je sors notre truc merveilleux qu'on sort à presque tous les épisodes maintenant, c'est les fameux 12 facteurs. Je crois qu'on vous en a parlé longtemps, mais si vous voulez mettre en place des microservices qui donc vont aller dans le cloud, il faut absolument que vos applications et que vos services y soient cohérents avec les 12 facteurs, parce que c'est des bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place sans aucun problème sur vos microservices. Ça Ça vous a séché apparemment. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord.
Non, si, bah, c'est toujours une bonne pratique de toute façon de les mettre en place. Et c'est vrai qu'on l'a déjà répété une paire de fois. Moi, dans des épisodes où j'étais pas là aussi, j'avais entendu qu'on en avait parlé. Donc, il n'y a pas de. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est un fait, en fait, aujourd'hui. Mais pour le coup, il y a aussi d'autres choses, notamment, je pense, un truc dont on pense moins, c'est l'organisation. On se dit c'est pour régler un problème d'organisation, mais si vous, si jamais vous réglez ce problème, en fait, au niveau technique avec le microservice, il faut derrière le régler au niveau humain, il faut organiser, en fait, les équipes pour qu'elles soient efficaces. Et là-dessus, il y avait un Rex qui, il y a quelques années maintenant, que je trouvais intéressant, c'était le Rex d'Expedia, il me semble, où ils expliquaient qu'ils étaient passés en full microservice parce qu'ils avaient des équipes dans plusieurs pays, etc., des équipes qui tenaient conséquentes. Donc, on s'imagine bien que ça devenait compliqué de travailler sur des monolithes. Et en fait, ce qui s'était passé, bah, c'est tout simplement qu'ils avaient défini en fait une organisation pour travailler comme ça. Et quand je dis une orga, ça avait aussi des choses qui étaient un peu moi qui étaient liées à la technique. C'est par exemple truc très con, mais que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils se sont dit, même si on est tous des équipes, des pizza teams indépendantes, on veut tous utiliser la même stack techno. Donc en fait, ils avaient voté pour une stack techno entre eux et une stack qui soit assez flexible et que toutes les équipes avec tous les programmes puissent utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils voulaient que les équipes puissent en fait pouvoir basculer rapidement. Si demain il y a un nouveau produit ou qui réclame une augmentation, que quelqu'un de la team puisse switcher dans l'autre team pour donner un coup de main ou autre chose. Tout simplement, si demain vous êtes une équipe A, et parce que ça on n'en parle pas, mais niveau organisation, c'est quelque chose qui peut être très vite une horreur à gérer en microservice dans une grande entreprise. Vous êtes l'équipe, vous implémentez une nouvelle feature. Vous avez votre nouvelle feature dans votre application, elle est très bien. Par exemple, la personne, elle peut, votre site était très basique et maintenant vous pouvez commander en fait plusieurs articles en même temps. Ben ouais, non, vous avez une nouvelle feature, vous pouvez avoir une adresse de facturation qui est différente de l'adresse de livraison. Si jamais vous aviez pas ça avant, en fait, vous avez beau l'implémenter sur votre service, vous allez devoir gérer ça en fait avec les appels aux autres services dont vous êtes indépendant, parce que d'autres services vont devoir être au courant et supporter cette modification. Et pour faire ça, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir organisationnellement dire à l'autre team, ouvrir un ticket, lui dire, bah, j'aurais besoin de cette implémentation, etc., sachant qu'elle-même a son propre backlog, son propre cycle de vie, bah, avec une organisation comme celle qu'ils avaient fait Expedia. Ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, vu qu'ils étaient tous sur la même stack technique, ils n'avaient pas à faire de tickets ou quelque chose comme ça qui galéraient à traiter, ou ça à partir, je pense qu'on a tous connu, en guerre entre product owner de différentes équipes, où il va dire, priorise-moi ça, parce que j'en ai besoin pour telle feature, etc. Là, vous allez pouvoir directement faire une merge request qui va être acceptée beaucoup plus facilement. Donc, c'est ça que je parle en orga, c'est avoir une vraie cohérence et une vraie homogénéité là-dessus. L'idée, c'est pas de faire quelque chose en se disant, c'est la technique, il n'y a pas du tout d'organisation à gérer, tout va se faire magiquement, on va commander des pizzas chez Domino's Pizza ou Pizza Hut, pour citer encore une fois une société américaine, histoire de changer, et on va commander des pizzas, on va voir comment les gens se réunissent autour de la table, on va dire, cool, bah, vous avez gagné des microservices. C'est pas comme ça, il y a un vrai côté organisationnel à penser, et je pense qu'aujourd'hui, sur une grande entreprise, on peut faire des choses super intelligentes et super efficaces.
En fait, c'est vrai qu'après, le microservice, c'est une des forces. C'est effectivement de pouvoir mixer les technologies de database. On a dit une database par microservice, mais du coup, on peut faire des choses assez... Enfin, si ça a du sens, on peut faire du SQL à des endroits, enfin, du transactionnel, du RDBMS, pardon. Et de notre côté, du NoSQL, etc. On peut aussi mixer les langages. Ça, c'est super cool, mais il y a aussi... Ça amène son lot de complexité aussi. Et du coup, attention à ce travers-là. Parce que ça finit à la fin, il peut avoir aussi un problème de compétences. Et ça, c'est ce que disait Damir très justement. Si c'est trop spécifique, les gens peuvent pas forcément basculer d'une équipe à l'autre. Ça entraîne des problèmes du coup plutôt organisationnels RH ou de compétences assez dramatiques, je pense.
Bah, du coup, si on veut rester dans l'organisation, et comment est-ce qu'on met en œuvre les microservices, est-ce qu'on parlerait pas justement de la gestion des dépôts Git pour gérer nos fameux microservices? Parce que j'imagine, on va pas tout mettre dans un seul dépôt Git, ou alors si on met tout dans un dépôt Git, il faut peut-être faire des répertoires. Qui veut nous parler de ça, qui a des expériences là-dessus?
Ça, encore une fois, ben, je vais reparler rapidement là-dessus. Ça dépend vraiment des équipes, ça dépend de la manière dont elles aiment travailler. Je pense que important quand on fait une migration comme ça, entre guillemets, qu'on passe du monolithe au microservice ou au niveau opérationnel des techniques, c'est comme j'ai, c'est d'inclure tout le monde dans la démarche et de voir ce que les gens et les équipes préfèrent, en fait. Parce que si vous commencez à forcer à utiliser des modèles qui sont peut-être pas adaptés à l'entreprise ou que les gens du terrain, ont plein de problèmes avec, ça va pas fonctionner. Donc ça, c'est à vous de voir. Après, personnellement, j'ai une préférence pour découper ça en répertoire, moi, avoir un repo par équipe. Après, il y a des autres structures qui peuvent se défendre. Ça dépend du cas, ça dépend des techniciens qui vont être dessus. Ça dépend de beaucoup de choses, à mon sens.
Moi, je serais aussi du partisan du un dépôt par service pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, ça permet de séparer les droits. Et donc, comme ça, on a des droits différents en fonction des dépôts. Donc, on va dire à telle équipe, elle a tel droit sur tel dépôt, etc. Mais surtout, comme on est dans un cycle microservice, les cycles de vie des applications ne sont pas les mêmes. Et en fonction de l'implémentation qu'on va choisir et dont on parlera peut-être après, eh ben, on va pouvoir, si on fait du GitOps, aller chercher ce dépôt-là plutôt que celui-là, etc. Alors que si tout est dans le même dépôt, ben, on va potentiellement tout récupérer. Et donc, moi, je préfère séparer les choses. Et comme on est de toute façon dans des grosses sociétés avec plein de pizza team, on peut se permettre de gérer plusieurs dépôts.
Pour moi, c'est une question d'outillage. Plusieurs repos ou un seul repo, c'est vraiment une question de... j'ai plein de services, je sais pas, 10, 50, 100, etc. Il faut monter les dépendances régulièrement, de manière automatique si possible, pour éviter les failles. Les images de base de mes conteneurs, etc. Il ne faut pas oublier un service. Tiens, ah, celui-là, je ne l'ai pas mis à jour depuis 2 ans. Parce qu'il tourne et puis on l'a oublié, entre guillemets. Bref, pour moi, c'est vraiment comment je gère mes dépendances même entre librairies, parce qu'on va avoir des librairies communes, généralement entre services. On parlait de socle commun, mais c'est un peu ça aussi. Parce que plusieurs services peuvent utiliser un socle commun de librairie pour interagir avec le SI ou même entre services. Voilà, on parle de messages bus, mais il y a forcément des libs pour communiquer. Il faut monter à jour tout ça, etc. Il ne faut pas que des services se retrouvent derrière. Et ça, c'est vraiment de l'outillage. Des trucs comme... Des bots pour faire les PR pour mettre à jour. Bref, il faut des choses, il faut vraiment réfléchir à l'outillage, je pense que c'est le plus important. Après, la manière de faire, ça va dépendre des entreprises, comme disait Damir pour moi.
Mais tu as raison d'insister sur la sécurité, c'est que c'est beaucoup plus complexe de gérer la sécurité quand il y a plein d'équipes qui gèrent plein de projets dans tous les côtés et dont on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus c'était qui en parlait, mais des cycles de vie différents. Il y a peut-être des programmes qui vont quasiment pas bouger de l'année, il y a d'autres qui vont bouger tous les jours, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas les mettre à jour et on a très vite fait de mettre un microservice de côté. Donc comme disait très justement Mathieu, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, notamment avec l'avènement du conteneur, il y a eu beaucoup la mode des tests statiques, etc., et notamment des dépendances. Après, faut pas hésiter aussi à faire des pen tests réguliers, voire du bug bounty, on en avait déjà parlé. Pour le coup, c'est des choses qu'il faut pas hésiter à faire. Et il faut, alors, l'épisode précédent, pour ceux qui l'ont pas écouté, je vous invite à l'écouter, je parlais de la théorie capitaliste appliquée à Kubernetes. Là, je vais appliquer la théorie du ruissellement de la sécurité, du coup, à l'informatique. Donc, faut vraiment que la sécurité, en fait, ruisselle du top, en fait, de la gestion vers les différentes équipes, en fait, pour expliquer, pour avoir un vrai contrôle et une vraie vérification de sécurité dans toutes les équipes et pas juste centraliser sur des parties d'applications qui vont spécialement évoluer.
Alors, je reprends la parole 5 minutes parce que tu parles de l'épisode précédent, mais je connais le planning de publication. Donc, l'épisode dont tu parles, c'est Actu DevOps d'octobre 2021 qui est quand même sorti il y a plusieurs mois parce que même si on enregistre ces 2 épisodes à la suite, le Radio DevOps que vous êtes en train d'écouter sort plusieurs mois après l'actu DevOps.
My bad.
Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et donc, du coup, oui, en effet, l'outillage est super important. J'ai développé, il n'y a pas très longtemps, pour une grosse société, en effet, un socle de pipeline de CI/CD pour GitLab, qui vont utiliser, je l'espère, je croise les doigts, dans beaucoup de leurs projets, et notamment, on a standardisé les pipelines, et maintenant, ils vont devoir maintenir tout ça et les utiliser dans tous leurs projets. Et on a développé tout ce qui est scan de sécurité, etc., build de conteneurs et autres petites choses, donc c'est super important, en effet, de faire ce genre de choses. Et tant que j'ai encore la parole, je vais parler des bonnes pratiques de développement. Si vous avez des microservices et donc des équipes de développement différentes, il est bon aussi de penser à quel est le flux de développement adapté à votre service, parce que vous ne pourrez pas, sauf cas exceptionnel, mais avoir le même flux de développement sur tous vos microservices pour toutes vos équipes, ça ne va pas marcher, je pense. Donc c'est à chaque équipe de choisir son bon flux de développement et ses bonnes pratiques de développement. Mais ça ne vous empêche pas de penser à des pratiques de code ou autres qui sont partagées à toute l'entreprise, évidemment.
Bah, sur ça, pour moi, c'est vraiment aussi les pratiques de dev, c'est une chose, les flux de dev aussi, mais c'est aussi ce qu'on va avoir. En fait, on va beaucoup travailler avec les services des autres équipes. Donc, il y a vraiment une notion, comme je vous disais avant, de contrat entre équipes, dans le sens où il faut que on va se retrouver avec une matrice de compatibilité entre services, en fait. Si quelqu'un fait un breaking change dans la chaîne, il faut que tous les services qui consomment ce message, enfin, qui vont consommer ce service, soient également changés. Donc, on évite. Bref, c'est vraiment ça la complexité organisationnelle et même en flux de dev, c'est-à-dire que si quelqu'un pète un truc ou on change, on fait un breaking change dans un service, comment on fait pour que les autres teams qui interagissent avec ce service sortent, on va dire, un service compatible dans les temps et pas qu'on mette en prod un truc qui n'est pas compatible avec le reste, parce que voilà, comme je le dis, c'est une matrice de compatibilité entre services généralement. Et donc, il faut faire évoluer ces contrats, ce qui n'est pas facile. Parfois.
Pour ça, il y a des solutions. Moi, je l'ai vu chez un de mes clients il y a quelques années. On avait deux devs qui, chacun, travaillaient sur une partie du code, l'un pour l'API et l'autre pour le front. Ça ressemble au microservice, hein, parce que du coup, il y en a un qui consomme l'API qui fournit l'autre. Et pour travailler, parce qu'ils travaillaient en parallèle, ils se sont mis d'accord sur les spécifications. Il y en a un des deux qui a fourni des bouchons. Des exemples en fait de réponses d'API, ce qui fait qu'il y en a un qui pouvait développer dans son coin des exemples, enfin avec les exemples de réponses API, et l'autre qui pouvait développer quelque chose qui fournissait ces réponses API là, et à la fin ils se sont tous retrouvés sur le commun, comme tu dis, en effet, le contrat qui du coup était des bouts de code.
Et ça, comme je disais, ça peut être réglé aussi de manière organisationnelle. Si on reprend l'exemple d'Expedia, du coup, ils faisaient une merge request, donc c'était l'équipe qui pouvait gérer en fait ça dans les différentes équipes pour mettre à jour un peu partout ce qui était nécessaire. Donc il y a vraiment plein de manières de gérer à différents niveaux.
Du coup, on a parlé de pentest et de sécurité, et évidemment, quand on parle de pentest et de sécurité, on ne peut pas ne pas aborder l'intégration continue et dire que si on veut passer au microservice, il faut absolument qu'on ait des tests, de l'intégration continue, du déploiement continu aussi, parce qu'on va gérer les cycles de vie de nos services. Et donc, il faut une certaine maturité avec les outils de déploiement ou d'intégration continue. Pour ça, d'ailleurs, si je me rappelle bien, on a fait un épisode de Radio DevOps sur l'intégration continue, dont je vous mets le lien en description de l'épisode.
Mais du coup, en parlant d'intégration continue, c'est aussi pour une simple question de coût, c'est que si jamais vous avez demain, vous avez votre monolithe, c'est pas ultra grave si vous le faites à la main, si vous le déployez à la main, parce que ça reste déployer un monolithe. Vous déployez une application, par exemple, si vous faites du microservice et que vous avez 100 équipes dans la semaine qui déploient un microservice, là, humainement, ça devient un peu compliqué de justifier de le faire à la main. Donc c'est là aussi où avoir une vraie maturité, une vraie forge avec un vrai système de CI/CD est important, parce que si vous n'avez pas ça, en fait, votre approche microservice va se planter parce que le coût humain va exploser et vous allez avoir des coûts de maintenance horribles.
Alors, en fait, ça rejoint tout à fait ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire que pour pouvoir rentrer là-dedans, il faut quand même avoir une usine qui marche bien, et ça reprend les bonnes pratiques qu'on connaît dans le DevOps globalement, quoi.
C'est ça. C'est clairement, faut prévoir votre usine et faut construire votre usine. En fait, dans l'idéal, faut penser et construire votre usine avant de commencer vraiment à l'utiliser, auquel cas, sinon, vous allez perdre beaucoup de temps avec des choses manuelles ou d'autres choses.
C'est ce que j'allais dire. Il faut une culture de DevOps dans l'entreprise, parce que vous ne pourrez pas passer au microservice si vous n'avez pas une bonne culture DevOps dans votre entreprise, parce que vos ops qui vont gérer l'infrastructure, vous ne laisseront pas déployer 100 microservices tous les jours, tout le temps, toutes les heures. Ça, c'est pas possible. Ou alors, il faut partager, automatiser, etc. Donc, commencer par diffuser la culture DevOps, automatiser les déploiements, mettre en place les tests, aller faire de l'intégration continue, puis du déploiement continu, puis peut-être que vous pourrez penser à faire du microservice.
On voit qu'on tire un peu la ficelle, en fait. Ce qu'il y a, c'est que on a des microservices, on voit qu'il faut du CI/CD, il va falloir les scheduler, il va falloir une solution comme Kubernetes, qui est quand même peut-être pas la plus simple du monde. Et du coup, il faut aussi, en termes de ressources, je pense, humaines, des personnes pour gérer ça, quoi.
Justement, tu as lâché le mot, peut-être qu'on pourrait parler d'architecture. Parce que des microservices, ça s'architecture, que ce soit en termes de logiciel ou d'infrastructure. Mathieu, tu voulais nous dire un petit mot là-dessus, justement.
On en a déjà parlé. On parlait au début du message bus versus communication synchrone, etc. c'est des choses à avoir en tête, c'est un système distribué, donc ça apporte plein de problématiques. C'est vraiment une façon particulière de travailler et il faut des gens capables de monter ce genre de système. C'est-à-dire que c'est pas, il faut avoir une certaine expérience selon moi. Donc que ce soit au niveau logiciel, Damir parlait tout à l'heure de socle commun ou pas, hein, mais voilà, sur le choix des langages, sur comment on construit les contrats entre services, les formats, est-ce que je fais du JSON, du protobuf, comment je spécifie mes services ou autre, enfin bref, tout ça. Et au niveau infra, donc René mentionnait Kubernetes, comment je fais communiquer mes services, service mesh et tout le comment dire, tout ce qui vient avec quoi. Voilà, c'est comme vous l'avez dit, c'est les bonnes pratiques de dev et d'ops de manière générale qu'il faut implémenter, mais à l'extrême là, on va dire, selon moi. Il faut vraiment que ça tourne bien.
Donc, et alors, est-ce qu'on peut faire du microservice sans Kubernetes? On a justement fait un épisode de Radio DevOps sur Kubernetes, je vous renvoie à cet épisode-là, mais est-ce qu'on peut s'en sortir sans conteneur, à votre avis? Sans même parler de Kubernetes, sans conteneur.
Sans conteneur, oui, sans Kubernetes aussi. Après, aujourd'hui, on peut faire vraiment quelque chose de moderne aussi avec des VM, hein. On peut build automatiquement avec du packer, des choses comme ça, faire du release automatique. Ça a changé peut-être un peu le modèle de gestion, mais c'est tout à fait possible. Après, c'est sûr qu'on aura peut-être... les CFP dans les conférences passeront moins bien quand on expliquera qu'on a tout fait sur de la VM, ça c'est sûr, mais pour le reste, c'est tout à fait techniquement possible pour le coup de le faire.
Ouais, mais je me fais l'avocat du diable, mais là tu parles plutôt de services que de micro-services, de petits trucs minuscules.
Tu prends des micro-VM. si je veux troll sur les mots, je pourrais dire ça. Après, la vraie chose aujourd'hui qu'apporte Kubernetes, et ça, même si c'est pas le produit que je préfère au monde, faut quand même l'avouer, c'est qu'aujourd'hui, tu veux faire une infrastructure microservice avec derrière du GitOps, entre guillemets, des choses comme ça. Souvent, tu as plein de produits qui sont bien documentés, bien connus, qui marchent globalement bien. Alors, je dis pas que c'est les choses les plus propres, qui sont parfaites, etc. Mais c'est aujourd'hui la solution, pas clé en main, mais en tout cas, c'est un peu plus guidé. C'est toujours pareil, c'est un peu le choix par défaut parce que tu n'auras jamais vraiment tort, ça fonctionnera.
Et c'est pas Netflix à une époque qui faisait de la VM comme ça, ils buildaient avec je sais pas Packer mais un outil comme ça, et ils faisaient du, ils installaient leurs apps avec du RPM et hop, ils balançaient ça dans un groupe d'autoscaling et puis voilà. Et finalement c'était
Il y en a plein qui font ça, mais ça marche en fait.
Oui, ça marche très bien, oui.
Ça marche super bien, oui.
C'est juste que après en fait les gens utilisent Kubernetes parce qu'il y a plein de choses qui sont il y a la hype, mais aussi plein de choses qui, plein de choses qui existent dessus. Aujourd'hui, tu cherches un outil, enfin, de déploiement et tout, t'as un truc comme Argo, ils sont totalement liés à Kube, donc tu te dis, je fais un Kube, ça, je mets un Argo, c'est bon, c'est fait aussi. Bon, tu mets du Prometheus avec du Grafana, avec un opérateur Kube, ça passe très bien aussi, et tu vas le gérer facilement. Moi, c'est toujours, entre guillemets, t'as vraiment beaucoup de solutions qui sont orientées Kube aujourd'hui. Donc, forcément, il y a entre guillemets, le marché à demander du Kube. Le marché a développé des solutions pour Kube, donc maintenant les gens prennent du Kube.
Ouais, alors je suis assez d'accord avec ça. Néanmoins, récemment il y a les rapports, donc il y a le rapport d'Ora qui est sorti sur le DevOps en 2021, dont j'en ai fait une vidéo justement, et on s'aperçoit que il y a une corrélation entre la vélocité des équipes qui déploient le plus vite, qui déploient le plus fréquemment, etc. Et le fait qu'ils utilisent Kubernetes et des orchestrateurs de conteneurs ou des conteneurs. C'est-à-dire qu'en fait, les équipes les moins avancées, celles qui déploient le moins vite et moins souvent, elles n'utilisent pas des conteneurs. Je dis pas qu'il y a un lien. Je dis juste que c'est un constat que les équipes les plus rapides et celles qui déploient le plus souvent utilisent des conteneurs.
Est-ce que le lien, c'est pas plutôt que les équipes qui ont le plus de maturité sont souvent sur du Kubernetes proportionnellement et les autres équipes sur des infra legacy? C'est peut-être ça,
c'est
aussi.
C'est exactement ce que je viens de dire, en fait.
Ouais, donc je pense que c'est vraiment ça, pour le coup, le vrai truc.
Donc je sais pas s'il y a un truc là-dessus, mais bon, en tout cas, c'est un constat qu'on peut faire. Et du coup, si on veut implémenter et mettre en œuvre les microservices, qui dit microservice dit service de partout, dit log de partout, dit vous pourrez pas vous en sortir sans centraliser vos logs. Donc il faut, dans votre infrastructure, penser à centraliser vos logs. Il y a plein d'outils qui existent. On a parlé de Grafana Prometheus. Donc si vous utilisez la stack Grafana Prometheus, vous pouvez utiliser Loki, qui permettra de centraliser vos logs sur Grafana. Vous pouvez utiliser d'autres services et parce que ça vous évitera justement d'aller gratter ce que je faisais il y a plusieurs années. Vous connectez sur un serveur, allez voir tel log de tel machin, puis c'est pas là, donc allez sur tel... Bref, vous gagnerez du temps.
La centralisation, juste si je peux ajouter un petit point, c'est aussi une question de sécurité. C'est qu'en fait, si jamais demain vous avez une machine qui est corrompue, en fait, la personne, elle a accès à votre machine, elle peut très bien effacer les logs locaux et marquer qu'il s'est rien passé. Le fait qu'ils soient centralisés, les logs, ça va vous permettre aussi de pouvoir faire de l'analyse d'incidents, étant sûr que les logs, bah, ils n'ont pas transité spécialement sur la machine, au repos, entre guillemets. Et ça vous permettra aussi, par exemple, de déclencher des alertes en cas, par exemple, d'action étrange.
Exactement. Et dans une philosophie DevOps, vous pourrez partager les logs avec les développeurs sans forcément qu'ils aient accès à la machine en SSH, par exemple. C'est une bonne chose. Et si vous voulez corréler, puisque tu viens de parler de corrélation, il vous faut une supervision et un monitoring. Enfin, de toute façon, ça, vous ne pourrez pas vous en passer. Si vous centralisez les logs, vous avez déjà votre monitoring et vous pourrez justement avec... Si vous utilisez Grafana, Loki, etc., dans la même interface, vous pourrez corréler les choses en plus. C'est vraiment super, super bien, je trouve.
Et je dirais aussi une chose... Je te laisse lire, René.
Ok, d'accord. Non, je voulais juste dire que ouais, pour moi, c'est indispensable parce qu'à l'échelle où, enfin, si on parle de microservices, on en a risque d'en avoir beaucoup. Sans centralisation, c'est juste un problème. Enfin, le moindre de troubleshooting va devenir un truc complètement délirant. Donc, c'est absolument indispensable pour ce que disait Christophe, faire les corrélations et trouver d'où viennent les problèmes. Par contre, bah, c'est aussi ce qu'on disait, c'est qu'on vient de tirer une... Enfin, quand je disais on tire la ficelle et il y a des trucs qui viennent, ça veut dire aussi qu'il faut une stack Prometheus, Grafana, ELK, peu importe la solution. Mais ça, c'est un coût en plus, c'est des compétences en plus. Et là, pour le coup, ça, c'est vraiment... Enfin, ça va être difficile d'y couper.
Et c'est pour ça que Mathieu disait que le microservice, ça coûte cher en termes de développeurs, mais du coup, ça coûte cher aussi en termes d'ops, du fait.
C'est ça.
Parce qu'il faut des ops pour héberger tout ça.
Des ops ou des services cloud qui coûtent aussi un certain prix. Et mais moi, je dis en fait aux gens, si vous n'avez déjà pas de centralisation de log et de supervision, mais faites déjà pas de microservices. Quoi. Je veux dire, commencez par la base. Sinon, vous allez dans le mur. Et je dirais même que les microservices... apporte des nouvelles pratiques de monitoring. On parle beaucoup de observability, de tracing maintenant, même de traces, pas forcément seulement de logs et métriques, parce que vos messages entre microservices vont se balader de service en service, il faut pouvoir les suivre, et c'est à ça que sert le tracing, mesurer la latence entre les services, pour avoir un ID de traces, on va dire, pour que le message soit suivi entre services et voir vraiment dans quel ordre il s'est exécuté, etc., etc. Et c'est tout un outillage nouveau, nouveau. Qui est en train de se standardiser avec des choses comme Open Tracing, des outils, voilà, il y a plusieurs outils de tracing. Et c'est des nouvelles pratiques et il faut commencer déjà par la base avant de se lancer là-dedans.
Ouais, clairement. Mais je rajoutais un petit truc là-dessus parce que je vois ça souvent. Le tout n'étant pas de récolter juste des métriques, parce que c'est très facile avec Prometheus de récolter des millions et des millions de métriques, c'est de savoir un peu les exploiter, parce que si c'est pour se dire, on a fait un Grafana, on a mis 300 métriques, mais on sait pas vraiment à quoi ça correspond, ouais, ça se trouve c'est pété, mais bon, le graphe est joli, ça sert à rien, et c'est ça qui est plus compliqué, je dirais, aujourd'hui, c'est pas tant de mettre en place tout ça, parce que du Prometheus, ça c'est logique assez simple au final, quand on y réfléchit. Le plus dur pour moi, c'est vraiment aujourd'hui de savoir interpréter tout ça et en tirer une information intéressante, savoir si ton application elle marche ou pas. Parce qu'on récolte de plus en plus sans forcément se poser cette question.
J'ajouterais un petit truc. Un peu, là, on va revenir deux crans en dessous, bien terre à terre, juste quand même avoir des patterns de log qui sont les mêmes pour un peu tous les microservices. C'est un truc vraiment de base, mais voilà, il faut y réfléchir un petit peu. Sinon, ça devient un peu la foire dans les... Dans les logs.
Mais standardiser, je dirais même standardiser toutes les approches, t'as raison, hein, toutes les approches communes, que ça soit sur les logs ou sur les manières d'implémenter sur des outils, ça peut quand même être bien. Par exemple, bah, truc tout con, mais là, si jamais la forge CI/CD elle est commune à toutes les équipes, bah, que tout le monde nomme par exemple les jobs ou les workers d'une manière standardisée pour s'y retrouver et pas être un jour en mode ah bah du coup il a acquis ce projet là, etc. quoi.
Tu lis dans mes pensées, c'est merveilleux.
Mais dans ce type...
c'est au bout.
Dans ce type d'organisation, les grosses organisations, on a souvent même des gens spécialisés dans ça. C'est-à-dire que dans les grands groupes, on a, enfin les grands groupes tech du moins, on a l'équipe alerting, par exemple. On va avoir, ou alors l'équipe, je sais pas moi, stream processing, etc., qui fait en sorte que tout soit standardisé sur ces sujets. Et donc c'est pas du microservice, mais quelque part c'est du côté ops aussi. On va dire, on découpe en équipe de cette manière. C'est pas quelque chose qui se fait que côté dev.
en fait, comme beaucoup de choses, il faut trouver aussi un équilibre entre l'indépendance de chaque équipe pour qu'elles utilisent les meilleurs outils pour eux, mais aussi une certaine rationalisation pour éviter de partir dans la stack Pokémon. On va tous les attraper là, parce que ça, à la fin, ça devient un truc de dingue.
Bon, ben justement, puisqu'on parle de Pokémon et de tous les attraper, on peut peut-être parler des problèmes qu'on pourrait avoir si on passe au microservice. Quel genre de choses parce que j'ai vu la section popée, du coup, je me dis, tant qu'à faire, on va en parler. Quel genre de problème on peut avoir avec les microservices? Alors là, je vois plein de trucs qui s'est ajouté. Je sais pas qui nous l'a ajouté, mais je vous laisse la parole.
Alors, c'est moi qui ai ajouté un petit peu en live, mais en fait, c'est des choses qui ont été abordées par, en grosse partie par Mathieu. En fait, il en a déjà dit pas mal. Notamment, le premier point un petit peu délicat, c'est que ces microservices, ils parlent tous à travers le réseau. Et qui dit réseau dit potentiel panne. Ou du moins plus de panne que si on parle sur une machine unique à travers la mémoire ou enfin voilà. Et
justement, si tu avant de passer à un point suivant, c'est intéressant de justement si tes services t'as besoin de parler à un service mais qu'il n'a pas d'interface réseau du coup et que tu ne peux lui parler que au travers d'un socket Unix, du coup tu peux pas faire de microservice avec ces trucs là. En fait, si tu as des solutions qui n'exposent pas du réseau, tu peux pas les mettre dans des microservices. Ça, c'est un autre des problèmes.
Je suis d'accord.
Tu peux toujours faire du polling, hein, comme à l'ancienne. Quand tu parlais de base de données qui était polée régulièrement avec une table de job. Bon, après, mais là, on entre sur des carrés particuliers. Mais sur le réseau, je parlerais aussi d'authentification, des choses comme ça. TLS, authentification même des services, faut pas que une fois qu'on est dans le réseau, c'est la fête, tous les services, il y a plus d'authente, il y a plus de TLS, il y a plus, bref.
C'est ça. Dans l'idée, faut que la connexion entre chaque service soit chiffrée, soit authentifiée et soit loguée pour pouvoir tracer les attaques, pour pouvoir du coup garantir que puisse pas être espionné et pour garantir que c'est bien légitime l'accès. Donc dans l'idéal, faut respecter ces trois facteurs-là sur chaque application. Dans la réalité, souvent, malheureusement, c'est pas le cas. On va pas se mentir. J'ai jamais vu une infrastructure vraiment microservice avec beaucoup de microservices où ça c'était respecté partout. Il y a toujours des exceptions ou des c'est dans la backlog.
En fait, c'est une question de coût aussi, de retour sur investissement. C'est que on a l'idéal, sauf que pour atteindre l'idéal, le coût va être trop élevé par rapport au retour sur investissement que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur ou en tant que boîte. Il y a ça aussi qu'il faut garder en tête parce que ce truc-là, il nous sort peut-être de la tête régulièrement, mais il y a un côté business aussi dans ce qu'on fait.
Je pense que, qu'il y a un côté humain aussi qui fait que nous, on veut toujours faire le meilleur. Et en fait, je sais pas si on sera un jour satisfait en réalité. Et pour moi, je vois vraiment les bonnes pratiques et tout. Je sais que déjà, on a un miroir déformant. On a tendance à avoir des beaux clients. En tout cas, je suis dans mon métier, j'ai tendance à avoir plutôt des beaux clients qui ont quand même envie de faire des choses bien, etc. Mais je sais que la réalité est beaucoup moins joyeuse souvent. Et je me dis aussi que, on voudrait avoir un truc parfait, qui soit tip-top, qui ait zéro souci, tout soit bien pensé, etc. Mais on sait que c'est pas vrai. On sait que pour beaucoup de boîtes, c'est pas vrai non plus. Le but pour moi, c'est vraiment de faire une exponentielle et d'essayer d'en rapprocher le plus possible en sachant que plus on veut s'en rapprocher, plus à la fin, ça devient dur, aussi bien en termes de coûts qu'en termes de moyens de l'entreprise.
Mais c'est surtout qu'est-ce qui est parfait parce qu'au final, aujourd'hui, il y a aussi un problème. Là, on va partir en HS, mais très rapidement. Un recruteur lambda reçoit un CV où le premier CV c'est ouais j'ai fait du microservice sur du cube machin super complexe et tout, voilà, ça a peut-être coûté 50 millions d'euros le projet, mais voilà, j'ai fait des trucs super cool. Et l'autre qui dit j'ai fait un projet un peu équivalent, mais on était juste deux devs sur des VM classiques et ça marchait très bien, mais par contre ça coûtait que dalle. Et le profil qui va être intéressant pour le recruteur au niveau des compétences, ça va être le premier. Donc il y a aussi ça dans le métier, c'est qu'aujourd'hui pour se vendre il faut pousser de la techno, etc. Mais c'est une autre question. Mais voilà, quelque part, les microservices, c'est un peu en lien. On parlait des conférences tout à l'heure. C'est aussi, on voit parfois aussi des architectures apparaître pour construire le CV.
Mais ça, c'est la question des buzzwords, hein, et ça revient tout le temps.
Je vous propose qu'on ne parte pas hors sujet, surtout que ça dépend des recruteurs et que le prochain épisode de Radio DevOps est sur ce sujet. Donc, concentrons-nous sur les problèmes qu'on peut avoir en microservices. J'ai coupé René tout à l'heure. René, tu veux reprendre?
Ouais, bah, je peux continuer la liste un petit peu. Donc, je finis juste
ouais,
sur le
juste
réseau.
Juste nous faire un résumé
ouais,
de cette liste-là.
Je continue sur le réseau, mais je vous laisserai voilà, sur le réseau. Donc, bien oublié, on a dit que bah, il faut forcément, vu qu'il y a des, c'est pas forcément fiable, il faut des retries, par exemple. Il faut, je parlais à un moment des fusibles pour, en cas de défaillance d'un des services, bah, avoir une contre-mesure. Voilà, tout ça, c'est des nouvelles choses à mettre en place. L'autre aspect, c'est la synchronisation. Alors moi, j'appelle ça synchronisation, c'est ce dont Mathieu parlait. C'est que ben, le cas typique, c'est souvent, on entend parler parfois du pattern saga. Donc l'exemple classique, c'est un site de réservation de voyage où on commande l'avion, l'hôtel et la voiture de location. Et du coup, ben, on voit plein de problèmes de synchronisation qui vont apparaître si, par exemple, lors de cette commande-là, donc chaque item, là, c'est un microservice, si au moment où on réserve la voiture de location, ben, il y a un souci, il faut faire le rollback de deux transactions d'avant, entre guillemets, sur les autres microservices. Donc, ça amène un certain nombre de problématiques de synchronisation dans les applications qui sont loin d'être triviales, quoi. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on voit apparaître assez vite quand on fait du microservice. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses par rapport à ça. Sinon, je poursuis.
Tu peux poursuivre, je pense.
Voilà, après il y a, ben, y a le découpage. Alors ça, c'est aussi super rigolo parce que faire des microservices, comment est-ce qu'on les découpe? Juste en soi, c'est, enfin, mon expérience à moi, c'est que c'est déjà un challenge parce que alors j'avais vu une conférence il y a assez longtemps où la personne disait qu'il faut faire les microservices les plus petits possibles. Ouais, pourquoi pas, mais bah, c'est pas si évident que ça. Et puis c'est d'autant moins évident, je pense, quand on parle sur quand on part sur une application qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que c'est plus facile de découper quelque chose qui existe déjà, je pense, que partir sur quelque chose de complet. Enfin, quand on part sur une application et qu'on développe au fur et à mesure, cette problématique de comment on découpe devient quand même pas évidente. Et voilà. Et puis après, ben, on en a parlé aussi, c'est les contrats d'interface. Enfin, les contrats d'interface, c'est quand même un des problèmes de génie logiciel les plus, enfin, les plus tricky, entre guillemets. Voilà, se mettre d'accord pour un contrat d'interface. Alors quand on est deux, ça se passe bien, mais quand il commence à avoir, quand c'est deux entités différentes, c'est pas si évident que ça. Et sachant que c'est quand même une des raisons pour lesquelles, c'est de bugs les plus courantes. Je vais passer sur l'aspect aussi quand on commence à partager des choses, est-ce qu'on partage des TO, etc. Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais ça apporte aussi un certain nombre de complexités à ce niveau-là. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. C'est pas tout. Voilà, c'est une architecture qui apporte pas mal de bénéfices, mais comme l'a dit Mathieu, encore une fois, il y a tout n'est pas parfait, il y a des pour et des contre, et il faut bien mesurer quand on l'utilise.
Il y avait, si je peux rebondir juste sur un point, c'est le découpage. Espérez pas tout découper d'un coup, faut y prendre partie par partie, vous les découpez petit à petit. C'est comme un gâteau, vous venez pas avec trois couteaux et vous essayez d'enfoncer trois couteaux en même temps. Vous découpez une part, une deuxième part, etc. Ben, c'est pareil pour une application. Il y avait un bon talk du coup de Loottech sur Twitter qui avait fait OSF Pod, mais elle a pas été filmée, je crois. Donc du coup au Meetup Symfony à Paris, ça a pas été filmé malheureusement, mais c'était globalement c'est ce qu'il faut retenir. Quoi. Faut pas essayer de tout découper en même temps parce que c'est aller droit dans le mur.
Ouais, c'est faut pas découper pour découper. Juste pour avoir plein de services.
Aussi,
moi, j'ai eu le cas. Moi, j'étais dans une équipe. À l'époque, on avait un service. Le manager au-dessus a forcé le découpage. Tout le monde était contre. Bah, ok, on a fait de la merde, quoi. Mais très bien. Parce qu'il voulait faire du microservice, il était dans le dogme. Ok. Enfin, bref, ça n'a aucun sens.
Les fameux managers qui donnent des avis techniques.
Enfin, c'est là, c'était manager ou archi, t'sais, les core team archi. Moi, ça m'a toujours bien saoulé en entreprise. C'est l'espèce dans leur tour d'ivoire. Enfin, bref, j'ai arrêté de rager, mais voilà, vous voyez ouais, l'idée. T'es le bureau, t'sais, au fond de OpenSpace, c'est un bureau d'archi, là. Tu sais pas trop ce qu'ils font, mais ils vont te dire comment bosser, t'sais. Allez.
Je te rassure, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font.
On trollera peut-être sur les archis une autre fois, et comme le monde n'est pas binaire et qu'il n'y a pas les monolithes d'un côté et les microservices de l'autre, j'imagine qu'il y a une infinité de solutions entre les deux. Peut-être qu'on pourrait parler de ça pour finir cet épisode, dire que c'est pas parce que vous ne pouvez pas tout de suite passer au microservice que vous pouvez forcément garder votre monolithe il y a peut-être d'autres alternatives. Je crois que j'ai déjà parlé justement de cette conférence sur le monolithe microservice ready, c'est-à-dire penser votre monolithe comme si plus tard vous alliez aller dans un microservice, et donc l'idée c'est de pouvoir, vous avez votre monolithe et il a des fonctions à l'intérieur qui sont différentes et vous pouvez le lancer pour avoir un service différent, c'est la même base de code, c'est le même truc, mais vous pouvez le lancer avec des commandes différentes et il va vous fournir des services différents. C'est en gros le monolithe microservice ready. Et moi, j'aimerais dire un truc que je conseille aux startups qui commencent et qui font appel souvent à mes services, c'est si vous voulez implémenter un truc que vous savez pas faire, commencez par utiliser un service externe ou un SaaS d'abord, qui fait pas partie du coup sur les parties qui font pas partie de votre cœur de métier. Ça vous permet d'aller plus vite, d'avoir des services externes qui sont pas des microservices, mais qui sont des services quand même, et de réduire votre base de code. Et ça, pour moi, c'est une voie entre les deux pour réduire la taille de votre monolithe sans forcément faire du microservice, mais en consommant des services externes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, question un peu détournée, est-ce que c'est pas du microservice en soi ou toi-même, tu n'héberges qu'un service?
Je voulais pas le dire. Mais oui, si, quelque part, c'est un début de microservice, c'est-à-dire que tu as des services externes qui sont fournis, qui sont hébergés partout.
Microservice as a service. Donc oui, c'est une solution, c'est sûr. C'est toujours bien d'utiliser des services externes si c'est pas notre cœur de métier et que le coût est raisonnable. Et après, moi, ce que je voulais dire également, c'est il y a pas le monolithe, un monolithe et de l'autre côté de la pièce 300 microservices. Il y a un monde entre. Les gens peuvent très bien avoir une architecture orientée service avec 2, 3, 4 microservices. Moi, c'est ce que je conseille à tout le monde. Voilà, c'est pour la majorité des entreprises, c'est l'archi qu'il faut. Pour moi, c'est quelques services bien découpés, pas du microservice. Moi, je qualifie pas ça de microservice, mais quelques services derrière une API gateway généralement. Ça permet déjà de travailler en équipe avec plusieurs équipes en parallèle, d'avoir un peu de scaling indépendant, etc. Et après, pour le reste, on voit au fur et à mesure.
Je pense que c'est encore une fois, c'est une question d'équilibre. Il faut éviter les extrêmes, quoi. Essayer de trouver le bon ratio et le faire surtout quand ça fait du sens en fait.
Ouais, pas agir par dogme, comme le disait Mathieu, dans tous les cas, quand vous commencez à agir comme ça, ça peut pas se finir vraiment bien.
En fait, cette discussion, moi, enfin, je la trouve intéressante parce que après, souvent, moi j'ai assisté à pas mal de conférences où quand le microservice était peut-être un peu plus dans la phase early adopters, adoption, etc. Et ce que je trouvais un peu dommage, c'est ce côté un peu trop silver bullet, là, souvent on dit ça, où ça répond à tout. Et en fait, je trouvais les interventions dans les conférences pas forcément très partiel, enfin équilibré justement. Voilà, je pense qu'il faut montrer les avantages, mais pas dire qu'il n'y a que des avantages, il y a quand même un certain nombre de contraintes importantes.
Ça, c'est le monde de la conférence aussi. Hein. Il y a les conférences et il y a la réalité. Et c'est souvent, moi, c'est un truc que je vois beaucoup, même aujourd'hui, même sur les choses hors du microservice, généralement, le niveau, enfin, les confs, bref, ça va jamais. Il faut vendre, hein, je veux dire, moi, c'est un peu mon impression.
Ça dépend vachement des confs, mais bon, c'est vrai qu'il y a un effet mode, entre guillemets, et montrer que ce que tu as fait est génial, des fois pour te convaincre aussi toi-même que tu n'étais pas battu tout seul dans ton coin, je pense que ça joue aussi, mais effectivement, ça dépend des confs, mais il y a des confs qui sont peut-être un peu plus comme tu le décris que d'autres.
Ben, je crois que nous avons un peu fait le tour de la question, et il est temps de conclure, surtout que nous en sommes à plus d'une heure de discussion. C'est encore une fois un bel et long épisode. Moi, je me permets de rappeler à notre cher auditeur que s'il veut discuter avec nous, que ce soit de microservices ou d'autres, il peut nous rejoindre sur la communauté des compagnons de DevOps, le lien est en description, et on y discute, on échange sur les microservices, sur Kubernetes, sur les conteneurs et sur plein d'autres choses. En ce moment, ça discute de packaging Python, si je me souviens bien. Et je vais laisser le mot de la fin à mes chers co-animateurs, et on va commencer par Mathieu.
Alors, mon mot de la fin, c'est j'espère que s'il y a des gens au début de podcast qui voulaient faire du microservice, maintenant ils sont un peu refroidis. voilà, faut bien y réfléchir, parce que clairement, pour moi, c'est vraiment pas toujours une bonne idée, ça peut l'être, mais faites très très attention et réfléchissez bien avant de faire du microservice.
René, quel est ton mot de la fin ?
Eh ben, j'ai pas forcément mieux. Je vais utiliser mon droit de. Je sais pas, au début, tu as dit que j'étais le plus vieux, donc je vais souhaiter une bonne écoute à tous les auditeurs et pas en dire plus.
C'est le droit d'aînés, je crois, qu'on dit.
Ça. C'est ça.
Et ben, Damir, le mot de la fin, est-ce que tu as un petit mot de la fin un petit peu positif pour clôturer cet épisode ?
Ouais, que, bah, y a pas de. En informatique, comme dans tout, il n'y a pas de solution magique qui vont régler tous vos problèmes. Le microservice est quand même là pour régler des vrais problèmes qui arrivent et qui sont de plus en plus nombreux à mesure que les organisations grandissent. Mais c'est pas pour ça qu'il faut en mettre partout, il faut foncer dedans sans réfléchir.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.